Chapitre 2. Les régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres. Cours 3. Les régimes totalitaires et l'ordre européen. Comment les régimes totalitaires contribuent-ils à la déstabilisation de l'ordre européen dans les années 1930? A. Les objectifs européens des régimes totalitaires. 1. L'hostilité au règlement de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste sont hostiles au système de sécurité collective destiné à garantir la paix internationale, création de la Société des Nations en 1920, et le dessin des frontières fixé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elles contestent les traités de l'après-guerre. S'opposant au traité de Versailles, Hitler veut remilitariser l'Allemagne et reprendre le contrôle de la rive gauche du Rhin. Mussolini veut obtenir les terres promises à l'Italie lors de la guerre et qu'elle n'a pas reçu à l'issue du conflit. 2. L'Allemagne et l'Italie, des régimes impérialistes. Mussolini entend imposer son autorité en Méditerranée en mémoire de la puissance de l'Empire romain antique. Cela heurte les intérêts des autres puissances européennes, notamment la France et le Royaume-Uni. Dans Mein Kampf, Hitler défend un programme pan-germaniste. Il affirme la nécessité de doter les Allemands d'un espace vital, conquis sur les peuples non germanophones, et de tirer vengeance de la France, ennemi mortel du peuple allemand. 3. La politique extérieure de l'URSS. À partir de 1934, la politique extérieure de Staline est dominée par un impératif : protéger l'URSS de l'affirmation de l'impérialisme allemand et de l'anticommunisme. Cela conduit le Comintern à encourager les partis communistes européens à s'allier avec les autres forces de gauche. C'est le cas notamment en France, Front Populaire 1936, et en Espagne, Frente Popular 1936. B. Les totalitarismes et l'échec de la sécurité collective, 1935-1936. 1. Les premières atteintes au droit international. Dans le contexte de la crise des années 1930, l'Allemagne et l'Italie cherchent à relancer l'activité économique par le développement de la production d'armement. En parallèle, elles lancent leurs premières offensives contre l'ordre international. Après avoir quitté la SDN en 1933, l'Allemagne tente d'annexer l'Autriche en 1934, mais échoue face à l'hostilité de Mussolini, l'Italie ayant une frontière commune avec cet État. Au cours des années suivantes, Hitler viole impunément le traité de Versailles en rétablissant le service militaire, 1935, et en réoccupant militairement la Rhénanie, 1936. De son côté, l'Italie entreprend la conquête de l'Éthiopie en 1935, ce qui lui vaut d'être condamnée par la SDN. 2. La guerre d'Espagne. En 1936, la victoire du Frente Popular aux élections législatives provoque le soulèvement du général Franco, partisan d'un régime autoritaire fondé sur l'armée et l'Église. C'est le début d'une sanglante guerre civile qui se solde par la fin de la République espagnole, 1939. Alors que les démocraties occidentales défendent le principe de la non-intervention pour ne pas déstabiliser l'ordre européen, l'Italie et l'Allemagne soutiennent Franco en lui envoyant des hommes et du matériel militaire. De son côté, l'URSS de Staline envoie aux républicains espagnols du matériel et des experts militaires, tandis que de nombreux communistes européens s'engagent dans les brigades internationales. 3. Les conséquences internationales de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne marque l'échec du système de sécurité collective et l'impuissance des démocraties occidentales. Elle favorise aussi le rapprochement entre l'Italie et l'Allemagne, qui se concrétise en novembre 1936 par la naissance de l'axe Rome-Berlin. L'année suivante, Mussolini rejoint l'Allemagne et le Japon dans le cadre du pacte anti-Comintern dirigé contre l'URSS et le communisme. C. Les régimes totalitaires et la marche à la guerre. 1. L'impérialisme hitlérien. À partir de 1938, Hitler se lance dans la réalisation de son programme pan-germaniste. Fort de l'alliance conclue avec l'Italie, il parvient à réaliser l'Anschluss, après avoir réussi à imposer un nazi à la tête du gouvernement autrichien. Il exige également que la Tchécoslovaquie lui livre le territoire des Sudètes. La population de cette région est en effet majoritairement germanophone. 2. La conférence de Munich, septembre 1938. Face à l'impérialisme hitlérien, les démocraties occidentales essaient de maintenir la paix coûte que coûte. Les 29 et 30 septembre 1938, lors de la conférence de Munich, la France et le Royaume-Uni accordent à Hitler le territoire des Sudètes contre la garantie de la paix. 3. L'année 1939. Cette attitude laisse libre cours aux ambitions des régimes fascistes. En mars 1939, contrairement aux engagements pris à Munich, Hitler lance une offensive contre la Tchécoslovaquie, première étape de la construction de l'espace vital. Dans la foulée, Mussolini prend le contrôle de l'Albanie en avril. Afin de se préparer à la guerre, Hitler conclut avec l'URSS le pacte germano-soviétique, 23 août 1939. Il s'agit d'un pacte de non-agression entre les deux puissances, qui comprend également un volet secret, prévoyant le partage de la Pologne et reconnaissant les droits de l'URSS sur la Finlande, les Pays-Baltes et la Bessarabie, région de Roumanie. Le 1er septembre 1939, Hitler lance une offensive contre la Pologne, entraînant l'entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni.